Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou au micro de Fadel Alou de la radio Faraa Gaya, une radio partenaire du studio Kalangou. Ce forum est diffusé sur l'ensemble des 8 régions du Niger grâce à un réseau d'une cinquantaine de radios locales. Il est aussi diffusé sur la page Facebook Studio Kalangou ainsi que sur le site internet www.studiokalangou.org. Les échanges d'aujourd'hui porteront sur la gouvernance dans le secteur de la santé. Quels sont les apports des écoles de santé et du district sanitaire de Gaya pour l'amélioration de la santé dans le département? Durant plusieurs décennies, les pays du tiers-monde ont bénéficié d'une assistance matérielle, humaine et technique étrangère ou internationale qui a aidé à l'amélioration de la santé des populations. Au cours de ces dernières décennies, des écoles de formation en santé publique ont vu le jour avec à leur tête des cadres nationaux. À ce jour, la ville de Gaya compte 2 grands centres de formation en santé. Ces centres procurent aux étudiants la chance de faire carrière dans le secteur de la santé-médecine. Comment ces centres participent-ils à l'amélioration de la santé des habitants de Gaya? Comment travaillent ces écoles de santé et le district sanitaire pour une bonne gouvernance dans le secteur à Gaya? Ce sont les questions auxquelles nous tenterons d'apporter des réponses avec Monsieur Ousmane Magaji, communicateur du district sanitaire de Gaya, et aussi Dr Ousmane Danrani, il est le directeur des études d'un centre de formation de Gaya, et aussi avec Mademoiselle Balkissa Balarabi, elle est citoyenne de la ville de Gaya. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous au forum du studio Kalangou. Monsieur Ousmane Danrani, je commence avec vous. Quels sont les outils mis à la disposition des étudiants pour une meilleure gouvernance une fois dans la vie active?
Pour la bonne gouvernance, un élément très important pour la formation en sciences de la santé, et ce qui fait que beaucoup d'organisations participent afin que cela soit en tout cas une réalité. Donc, les outils sont entre autres, d'abord le curricula de formation élaboré par l'OAS, qui est une organisation ouest-africaine de santé, qui, elle, s'en charge spécialement sur le niveau supérieur, donc à partir du bac. Donc, elle élabore avec les spécialistes en formation, qui élabore en tout cas un programme qui va permettre en tout cas aux étudiants, une fois la formation finie, d'exécuter en tout cas leur tâches avec facilité. Après cette organisation, nous avons le programme de formation élaboré par le ministère de la Santé publique et qui est spécialement surtout pour le niveau élémentaire et le niveau moyen. Aussi, dans le cadre ou dans le but pour que les étudiants, en tout cas à la fin de la formation, qu'ils aient en tout cas des matériels nécessaires, des outils nécessaires pour en tout cas exercer leurs fonctions. À part cela, nous avons aussi des programmes additionnels qui, parce que déjà nous savons l'évolution donc du monde actuel, il y a effectivement des programmes qu'il faut additionner à la formation de la santé, qui, comme par exemple le civisme. Que serait en tout cas un agent de santé qui n'a pas en tout cas l'amour donc de sa patrie. Donc nous avons en tout cas additionné ce programme, le civisme. Nous avons en partenariat avec aussi les forces de l'ordre de Gaya, nous avons instauré aussi un programme additionnel qu'on appelle le secourisme, donc la prise en charge des urgences. En tout cas, nous avons vu l'importance pour l'insérer. Et le troisième ou le dernier outil, c'est la formation pour potentialiser la capacité de la prise en charge des cancers gynécologiques, surtout pour la formation de sages-femmes. Nous savons qu'aujourd'hui, en tout cas, les cancers gynécologiques sont des pathologies de plus en plus fréquentes et malheureusement, à Gaïa, nous n'avons pas de centre de prise en charge de cancers gynécologiques, ce qui fait que nos sages-femmes, nos étudiantes, à la fin de formation, vont se retrouver, en tout cas, sans formation de prise en charge de cancers gynécologiques. Et ce qui nous a permis de penser, et depuis l'année passée, nous avions déjà commencé. Et cette année même, nous allons aussi envoyer nos candidats à Niamey au centre de prise en charge de cancer gynécologique pour une formation et à l'issue de laquelle ils viennent avec donc des attestations qui attestent qu'ils ont suivi une formation en tout cas de la prise en charge de cancer gynécologique.
Toujours avec vous, quel est l'apport de votre centre de formation au district sanitaire de Gaïa?
L'apport que nous avons, l'Institut international de santé de Gaïa, avec le district de Gaïa, c'est surtout un rapport effectivement de collaboration, un apport de collaboration. L'Institut international de santé participe activement aux besoins sanitaires en prodiguant la formation de qualité à ses apprenants et pour qu'à leur tour, donc, de prodiguer des soins de qualité donc aux patients. Donc nous, notre travail, c'est de donner aussi une bonne formation de qualité qui, donc, à leur tour, les étudiants vont appliquer, donc, effectivement, aux patients au niveau du centre de formation. En dehors de ça, il y a un autre apport, autant pour moi, qui, celui-là, c'est pour la sensibilisation. Parce que le centre du district de Gaïa est, donc, la représentation nationale de santé à Gaïa. Donc, ce qui veut dire que donc, même la sensibilisation de la population, effectivement, c'est quelque chose qui leur encombre. Donc, nous, en collaboration avec eux, donc, nous sensibilisons la population, surtout les jeunes, qui est la population cible, sur les pathologies fréquentes, les infections sexuellement transmissibles et surtout le drogue et tabagisme, qui est un fléau social, surtout leur impact socio-économique et médical. Je me rappelle bien, au début de l'année, nous avions fait école par école. C'est toutes les écoles de les établissements scolaires de Gaïa, nous avions passé. L'Institut a, en tout cas, sensibilisé les étudiants, surtout sur leur comportement vis-à-vis du fléau social, les drogues et tabagisme. Voilà, entre autres, les apports que nous avons à apporter au district de santé de Gaïa.
Je viens à vous, Monsieur Magaji Ousmane. Vous êtes le communicateur du district sanitaire de Gaïa. La question que je m'en vais vous poser, de quels moyens humains, techniques et financiers dispose votre formation sanitaire pour une meilleure santé de la population?
Je vous remercie. En fait, le district sanitaire de Gaïa, c'est un district de référence de la région, si on peut le dire. Car dans toute la région de Dosso, il n'y a pas un district comme celui de Gaïa. Donc nous disposons des ressources humaines, à savoir il y a une équipe cadre qui coiffe tous les départements de Gaïa. Donc cette équipe cadre, elle est composée d'un médecin chef de district, un médecin adjoint, donc un gestionnaire, et un épidémiologiste et un communicateur. Donc les deux médecins qui sont dans le district, il y a deux médecins qui sont des médecins capacitaires en chirurgie de district. Maintenant, nous avons cinq autres médecins qui sont dans le district actuellement, dont une gynécologue, un médecin au niveau de la commune de Tunuga, un médecin qui est au niveau de la commune de Yelou et un médecin qui est au niveau de la commune de Tanda. Et il faut aussi souligner que ce médecin qui est au niveau de l'hôpital de Gaïa, c'est un médecin gynécologique. Donc, à part ça, nous avons 162 infirmiers, tous grades confondus, à savoir les IDE, les ASB et les IC. Nous avons 20 sages-femmes. Donc, pour ce qui est des ressources humaines, voilà un peu le personnel. Pour ce qui est du matériel, nous disposons des matériels nécessaires pour la prise en charge de qualité des patients. Donc, nous disposons de matériel technique, biomédical nécessaire. Comme vous le savez, nous avons un nouveau hôpital. Nous disposons de moyens roulants. Nous avons deux ambulances. Nous avons deux véhicules de supervision au niveau des terrains. Nous avons des motos. toujours dans le cadre de supervision. Quant à la ressource financière, notre principale source de revenus, c'est les RC. Le RC, c'est le recouvrement de coûts. Donc, à travers l'achat des soins, c'est-à-dire le patient vient, il paye les soins, les 1100 francs ou bien en quelque sorte, ça dépend de l'endroit. L'hôpital 6600, etc. Donc, à part ça, nous avons l'appui des partenaires, notamment le partenaire Passenabel. Nous avons l'appui de l'État. Il ne faut pas oublier que c'est l'État qui recrute les agents. Ça aussi, c'est un autre coût. Donc, voilà en ce qui concerne les moyens financiers, matériels et humains que nous disposons au niveau du district sanitaire de Gaya.
Comment sont gérés ces moyens pour une bonne gouvernance?
La gestion, elle est partagée en fonction des responsabilités. C'est-à-dire que tout ce qui est de gestion financière, matérielle, c'est le gestionnaire qui gère cet aspect. Maintenant, pour ce qui est question des ressources humaines, c'est le médecin chef et le médecin chef adjoint qui gèrent les ressources humaines. Donc, il y a une bonne gestion et une bonne distribution du personnel et des matériels.
Et dans les communes rurales, au niveau des CSI, comment est-ce que là aussi vous gérez ces cas-là?
Dans les communes et dans les CSI, il y a toujours un représentant du médecin chef, savoir le chef CSI. Et dans les communes, il y a un médecin, comme je l'avais dit tout à l'heure, qu'il y a trois communes où il dispose déjà d'un médecin. Donc, au niveau de ces communes-là, c'est le médecin qui gère le CSI et les CSI qui sont rattachés à la commune. Comme vous prenez l'exemple de CSI de Tanda, il y a un médecin qui est là, donc il y a le CSI de Albarkézé, il y a le CSI de Sia et le CSI de Tanda en question, toujours sont sous la coupe de ce médecin. Et ce médecin, il est rattaché directement au médecin du district.
Alors, maintenant, je vais me tourner vers vous. Madame Balkissa Balarabé, vous êtes une habituée de l'hôpital de Gaya. Comment appréciez-vous le travail des étudiants venus des centres de formation?
Vraiment, j'apprécie les étudiants venant des centres de formation. Si je peux le dire, je peux dire que même travaillent plus que même les fonctionnaires de l'État. Car eux, de leur niveau, il y a l'accueil, ils accueillent les patients. Et une fois la personne malade, quand on l'accueille, déjà une partie de ces maladies est guérie. Vraiment, j'apprécie beaucoup les étudiants. S'il y a un malade, il court après les malades, il leur pose des questions, il leur fait des accueils chaleureux.
D'accord. Vous dites que tout est formidable. Maintenant, je vais vous inviter à écouter ces personnes à qui nous avons tendu notre micro dans la ville de Gaya.
Aussitôt, on amène un patient à l'hôpital. Les infirmières ou même les docteurs devraient s'occuper de lui. Mais de nos jours, cela est en baisse. Ils ne s'occupent pas de la personne. Des fois, quand tu vas à l'hôpital, tu amènes un patient. Les femmes, ils sont assis. Ils ne s'occupent pas des gens. Ils sont en train de faire leur WhatsApp et autres trucs. C'est après, en insistant, ils vont parler aussi. Ils vont te parler de la sorte dont, vraiment, les prix sont très chers. Maintenant, quand tu amènes des gens ou bien un patient à l'hôpital, surtout dans les cliniques de l'hôpital, On te prescrit une ordonnance, tu pars acheter les seringues et autres trucs. Et en même temps, tu payes 1100 francs. Et puis, il n'y a pas de médicaments. Nous, on ne sait pas quoi dire là-bas.
Cet argent que les agents de santé prennent est un soulagement. Car s'ils nous faisaient une ordonnance pour aller acheter les comprimés en ville, ça risque de nous coûter plus cher. Et s'ils avaient tous les comprimés à leur disposition, ça n'allait pas coûter cher. L'argent que nous payons au guichet de l'hôpital est peu comparé à la quantité de comprimés et de soins que nous recevons. Alors, c'est comme s'ils nous les donnaient gratuitement. Nous n'avons aucun problème avec eux et ils nous donnent tous les comprimés qu'il faut. S'ils n'en ont pas, ils nous écrivent une ordonnance pour qu'on aille chercher en ville. Et là-bas, le prix est au-delà de 2500 francs que nous payons à l'hôpital. Voilà pourquoi je dis qu'à l'hôpital, nous n'avons aucun problème.
Ce que je vous dis, les frais des médicaments, là, vraiment le prix a augmenté. Vraiment, nous attendons à ce qu'on voit les prix à la baisse, mais malheureusement, les prix, là, vraiment, c'est autre chose. Hein. Parce que nous, ce qu'on a constaté, et vu la situation actuelle que traverse notre pays, et surtout cette histoire de cette pandémie-là. Nous attendons à ce que le gouvernement fasse quelque chose. Il fait quelque chose, même s'il n'arrive pas à tout payer, quand même il arrive à nous faciliter le prix, au moins à nous réduire le prix. Mais vraiment, ce n'est plus ça. Vraiment, les prix ont même augmenté, sans vous mentir. Je vous dis le simple paracétamol, là, moi, avant, on commence par le para même. Avant, je paye le paracétamol à 100 francs. Maintenant, dans les pharmacies, le paracétamol, c'est à 150. Ça, ce n'est qu'un petit exemple que je vais vous donner, quoi. C'est le point de départ. Donc, vraiment, si vous regardez les autres prix aussi, c'est la même chose. Ouais, je vous dis vraiment, les prix ont augmenté.
Moi, personne ne m'a jamais traité à la légère. Je les remercie tous. Si je me lève ce jour pour aller là-bas, ils viendront tous vers moi pour me demander ce qui ne va pas. J'apprécie bien leur travail. Une fois, le fils de ma coépouse a eu le bras fracturé pendant qu'il jouait avec ses camarades. Arrivé à l'hôpital, dès que les agents de santé m'ont aperçu, ils sont venus vers moi. Je les remercie tous.
Moi, ce que je garde et qui m'énerve aussi, hein, parce qu'une fois, je creusais un puits là, un puits avec du burin, j'ai tapé, il y a une pierre qui a sauté sur mes nerfs et ça m'a blessé. Donc, le sang coulait. J'étais parti à l'hôpital, je me suis présenté juste au bureau où on faisait le pansement, il n'y avait personne. J'ai entendu du bruit au niveau de la fenêtre. J'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu un groupe de femmes en train de manger du copto. Quoi? J'ai dit, mais c'est quoi ça? Et qui fait le pansement ici? Ils ont dit c'est une vieille plaie ou bien c'est une ancienne plaie. Ça m'a énervé, c'est tout ce que j'ai à dire.
Voilà, vous venez d'écouter les citoyens de la ville de Gaya. Je vais commencer avec vous, Madame Balkissa Balarabé. Voici ces citoyens de la ville que vous avez écoutés. Quelles autres difficultés vous rencontrez à part ce que ces personnes viennent de citer?
Parmi les gens, il y a des bons et des mauvais personnes. Mais du côté du bon, ils sont plus nombreux que du côté des mauvais.
Il vous arrive de voir quelque chose qui ne vous plaît pas du tout?
Eh oui, vraiment, il y en a.
Citez-les.
Surtout au niveau du manger du copte que l'autre vient de constater.
Alors, vous avez l'habitude de trouver des femmes de l'hôpital en train de manger du copte, comme vient de le dire quelqu'un ici?
Moi, c'est pas du copte, mais c'est du dambou. C'est du dambou qu'ils sont en train de manger. Une fois que les patients viennent, ils vont dire qu'il y a laissé jusqu'à ce qu'on finisse de manger. Certes, de laisser jusqu'à ce qu'on finisse de manger. Une fois fini, il faut venir s'occuper des autres, les malades. Mais une fois fini, ils ne viennent pas. Les autres restent, c'est en ce moment même qu'ils vont penser des autres causeries. Ah, tu n'as pas entendu, une telle a fait ceci, chez une telle il y a cela. Vraiment, c'est en ce moment-là que d'autres causeries, des nouveaux causeries même, se provoquent et ils parlent de ça. Alors que les patients sont là, une maladie, c'est une maladie. Hein? Pourquoi venir à l'hôpital? C'est de s'occuper de la personne et non de venir manger du copto. On n'empêche personne à manger. Mais une fois fini, il faut venir s'occuper des malades.
D'accord. Je vais me tourner vers vous, M. Magaji Ousmane. Vous venez aussi d'écouter, comme nous, ces citoyens de la ville de Gaya. Quelle est votre réaction par rapport à ça?
J'ai écouté très bien. Certains m'ont fait rire, certains m'ont interpellé. Donc, tout ce qu'ils ont dit, ce n'est que de la vérité. Vous savez, dans chaque institution, on trouve de bonnes personnes et de mauvaises personnes, comme l'avait dit madame. Et donc, ça, c'est un comportement dont nous avons déjà parlé. Nous avons commencé à pallier déjà à ce genre de comportement-là au niveau de l'hôpital. Donc, pour ce qui est des ordonnances dont ils ont parlé, les tarifs qu'ils disent que c'est beaucoup, et les ordonnances, c'est normal. Parce qu'aujourd'hui, même la commande que l'hôpital lance au niveau de l'ONPPC, parce que l'État nous a obligés d'acheter les produits au niveau de l'ONPPC, c'est-à-dire l'Office National des Produits Pharmaceutiques du Niger. Donc à travers cela, c'est quand l'ONPPC ne peut pas nous fournir la quantité demandée qu'on nous autorise à aller vers un autre fournisseur. Alors, dans une commande que nous lançons, par exemple, par mois, une commande de 5 millions, nous ne pouvons pas avoir les produits de 3 millions. L'ONPPC ne peut pas nous fournir les produits de 3 millions et elle les fournit à compte-goutte. Nous n'avons pas le pouvoir de quitter complètement l'ONPPC. Du coup, ce qui entrave ces ordonnances, quand le patient arrive et que le produit qu'on est censé lui faire n'est pas disponible au niveau de la formation sanitaire, on est obligé de lui prescrire parce qu'on ne peut pas le laisser comme ça. On est obligé de l'aider. Donc c'est en prescrivant cette ordonnance qu'on l'aide. Donc pour ce qui est de tarifs aussi, il faut que les gens sachent que le tarif de consultation sont fixés par l'État à travers une assemblée générale. Récemment, nous avons fini nos assemblées générales départementales en juin passé. Donc chaque région fait son assemblée générale. Par exemple, quand vous prenez le cas de Gaya, le coût qu'on prend à Gaya n'est pas la même chose avec le département de Douchi, avec le département de Jindou, avec le département de Falmay. Pourquoi? Parce que le coût est fixé en fonction de l'économie du département. On a vu qu'à Gaya, les gens peuvent supporter un coût de 1100 francs. Vous comprenez? Raison pour laquelle au niveau de l'Assemblée générale départementale, on a fixé le coût à 1100 francs. Voilà. Pour que, avec les 1100 francs là, on vous donne tous les produits nécessaires pour une maladie. J'ai dit une maladie. C'est différent d'aujourd'hui, vous venez avec une maladie, on vous donne les produits. Et que demain, vous revenez avec une autre maladie. C'est une nouvelle consultation. Vous comprenez.
Et vous, Ousmane Danrani, qu'est-ce que vous pensez de ce que ces personnes viennent de dire?
Il y a beaucoup d'interpellations, il y a beaucoup de malcompréhensions. Et dans un premier temps, et c'est important l'accueil, comme ils l'ont dit tous. Et un patient qui a été bien accueilli et à moitié déjà guéri. Donc, à ce niveau, il y a un véritable problème. Le problème qu'on peut peut-être dire au niveau de l'accueil, c'est un problème d'attention. Souvent, les patients, c'est vrai, quand ils sont venus, souvent en urgence, ils n'essayent pas d'être aussi polis. Parce que je vous assure, c'est le seul métier qu'on peut dire, la science de la santé, qui est ingrat. Parce que vous allez prodiguer des soins, donc vous n'attendez rien du patient, mais quand même le patient va vous insulter au retour. Ce qui veut dire que souvent le patient vient et vous crie dessus, or que vous êtes déjà en train de prendre en charge une urgence. Et ce voyage, vous ne pouvez pas vous diviser en deux. Ce qui veut dire que vous allez évaluer, selon vous, quelle est l'urgence optimale pour prendre en charge avant de revenir sur un autre patient. Donc souvent, voilà effectivement la malcompréhension que nous avons à ce niveau et qui fait que souvent les accompagnants ne comprennent pas l'agent de santé qui est déjà en train de prendre en charge un autre patient. Est-ce que vous voyez? Donc, vous êtes d'accord avec moi, un agent de santé qui garde, par exemple, et qui se trouve peut-être avec beaucoup de cas et qui est obligé, par exemple, de continuer la prise en charge. Donc, il est obligé aussi de manger. Parce que s'il a une hypoglycémie sévère, il va tomber et il va être aussi un autre malade. Ce qui veut dire qu'un agent de santé a besoin de manger. Mais néanmoins, ce n'est pas une occasion pour manger à chaque 2 heures ou bien, vous voyez. Il y a certaines, en tout cas, plaintes que la population a posées tout à l'heure. C'est un problème d'État. C'est pas au niveau du district, c'est au niveau ministériel. C'est au ministère, par exemple, si vous prenez, par exemple, le recouvrement de l'enfant de moins de 5 ans, de la femme enceinte, par exemple, et le problème, c'est que elle est prise en charge, c'est vrai, mais effectivement, au niveau des produits, on peut se trouver donc avec des indisponibilités. À ce moment, c'est les ordonnances. Et l'ordonnance, elle est prescrite, c'est au centre, donc, c'est-à-dire les dépôts pharmaceutiques de vente. Et même les dépôts pharmaceutiques, c'est pas hasardement, ils vont fixer leur prix. Il y a aussi un conseil pharmaceutique national qui se réunissent et qui fixe à peu près donc le prix de produits.
Monsieur Magaji Ousmane, alors peut-on savoir quelles sont les maladies ou les consultations pour lesquelles vos services sont les plus sollicités et ce que ça coûte pour le demandeur mais aussi pour votre budget?
Les maladies les plus fréquentes rencontrées au niveau du district sanitaire de Gaya, surtout à cette période, il y a le paludisme parce que c'est la saison de pluie qui est là, qui est bien installée. Il y a les affections digestives, les troubles digestifs, les diarrhées, il y a les infections respiratoires aiguës, les IRA, il y a les anémies. Vous savez, surtout, il y a certaines maladies, souvent les accidents de la voie publique qui causent beaucoup d'hémorragies, donc qui causent des anémies. Et il y a les hypertensions artérielles. Donc c'est pour ne citer que cela. Donc sinon, il y a beaucoup. Et pour ce qui est des questions de coûts, donc au niveau des patients, si le patient présente au niveau de la formation sanitaire, il y a un montant forfaitaire qu'il paye pour se prendre en charge. Maintenant, si la maladie est trop grave et qu'il n'y a pas le produit nécessaire pour se prendre en charge, donc on est obligé de le prescrire d'autres médicaments pour aller chercher. Ce qui va sous-entendre qu'il va dépenser de l'argent. Donc, et pour ce qui est de la formation sanitaire, ça demande beaucoup de budget, surtout quand vous prenez les cas, la prise en charge des accidentés. Les accidentés, comme je l'avais dit, c'est des forfaits. Mais maintenant, quand vous venez, ce qu'on va prendre en charge sur le plan pansement, ce qu'on va utiliser, sur le plan nettoyage de l'endroit, parce qu'ils vont salir l'endroit avec le sang, des infections, tout ça là. Même sur le plan, comment on appelle ça, l'itérie qu'on va utiliser, tout ça là, ça va coûter beaucoup à l'institution. Donc, voilà quelques exemples des maladies fréquentes et du coup qui peut coûter au niveau de la formation santé.
Est-ce que vous pouvez nous donner une estimation?
Une estimation, vous savez, chaque patient admis au niveau de l'hôpital, et si c'est au niveau de l'hôpital, il paye 6800 francs. Maintenant, dans les 6800 francs, il est censé être pris en charge pendant sa période de maladie. Maintenant, si c'est une maladie grave, comme je l'avais dit tout à l'heure, un accidenté qui est venu avec un traumatisme, par exemple une fracture, il est venu avec les 6100 francs et qu'il nécessite un plâtre, il nécessite d'autres prises en charge dont il n'y a pas les moyens de le prendre en charge. On fait ordonnance pour aller chercher. Donc le plâtre peut lui coûter dans les environs de 20 et quelques mille ou bien 30 et quelques mille francs. Donc vous voyez, pour un citoyen qui n'arrive même pas à se procurer 5 000 par jour, et qu'on lui dit une ordonnance de 30 000, c'est vraiment énorme.
Justement, par rapport à ces gens sans aucun moyen, comment est-ce que vous prenez en charge ces cas sociaux ou quand le malade est admis en urgence, comment est-ce que vous prenez ça en charge?
Nous avons un service social qui est là au niveau du district, au niveau de l'hôpital. Tout cas social qui se présente, c'est à ce service-là de le prendre en charge. Donc il y a une prise en charge spécifique pour les cas sociaux. Quand vous partez dans les CSI, il y a les cas sociaux qu'on appelle les indigents. Là-bas, il n'y a pas de services sociaux. Mais il y a un comité qu'on appelle un comité de prise en charge des indigents. Ces sociaux-là, c'est ceux-là qui sont transformés en indigents au niveau des CSI, centres de santé intégrés dans les villages. Donc, le comité s'est réuni pour, par exemple, dans le village, comme on dit, chacun connaît chacun. Donc, dans les villages, on identifie les gens-là qui sont des cas, véritables cas sociaux. C'est eux qu'on identifie. Quand ils vont venir à la formation sanitaire, ils ne payent aucun franc. La formation sanitaire les prend en charge. Maintenant, il les prend en charge dans quoi? Tout à l'heure, j'ai dit, nous avons un partenaire par Sénabel qui est en train d'appuyer les districts. Donc, ce partenaire, il achète les indicateurs au niveau des districts. Quand il achète les indicateurs, il donne une somme chaque fin du mois au CSI et à l'hôpital. Maintenant, dans cette somme-là, il y a une partie prévue pour la prise en charge des indigents. Chaque CSI prévoit combien d'indigents peut prendre en charge en fonction du mois. Donc, ce montant est alloué à cette prise en charge spécifique pour les indigents. Donc, pour ce qui est de la question du service social de l'hôpital, donc c'est l'État qui s'en charge de ça.
Monsieur Ousmane, je reviens à vous, puisque vous êtes le directeur d'études d'un centre de formation en santé. Qu'est-ce que votre centre enseigne aux apprenants face à des cas sociaux ou en urgence?
Pour les cas sociaux et l'urgence, effectivement, il y a aussi même des modules spécifiquement sur les cas sociaux et spécifiquement sur les urgences. Donc pour le cas social, comme l'a dit le monsieur, donc c'est au patient effectivement. Donc le patient est pris en charge par l'État et leur partenaire, donc qui se présente au service social. Dans ce sens-là, si ils constatent que leur patient n'a rien pour se prendre en charge, à ce moment, en tout cas, il explique à leur hiérarchie, donc les infirmières et infirmiers qui sont donc dans le service, ou bien au major. Donc, il va faire un rapport et ils vont en tout cas envoyer nos étudiants donc sûrement pour que ça soit plus rapide et pour que soit pris en charge. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est la prise en charge psychologique. Ce n'est pas parce que je suis venu dans un véhicule avec un bon bazin que je serai pris en charge rapidement plus que quelqu'un qui est venu, en tout cas, dans une tenue débraillée. Un patient, ils ont les mêmes droits de prise en charge. Ce qui veut dire que psychologiquement, il faut accompagner ce patient qui est là pour la prise en charge. Nous avons aussi des enseignants psychologues. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le genre, c'est ce qui n'attend pas. Et nous avons en tout cas des enseignants compétents par rapport à cela. Par exemple, moi je fais partie des enseignants qui ont enseigné l'urgence, donc chirurgicale et médicale. Il y a aussi, je vous dis tout à l'heure, que nous avons aussi des secourismes qui font partie des urgences. Et donc nous avons aussi les agents pompiers, donc les militaires pompiers qui sont là et qui appuient donc l'établissement de la prise en charge des urgences.
Ousmane, vous recevez ces étudiants sont venus des centres de formation. Quels changements vous avez observés depuis que vous recevez les stagiaires de ces écoles de formation?
Vous savez, le changement, on ne le constate pas tout de suite. Cependant, on peut souligner l'aspect, surtout sur le plan aspect hygiène, parce que quand les stagiaires se présentent au niveau des formations sanitaires, surtout les stagiaires de la première année, généralement, c'est dans les désinfections et les réfections qui rentrent. Donc, on constate qu'à leur arrivée, ils font la désinfection des lits, des locaux, ainsi de suite, et de certains matériels. Il y a aussi, surtout les autres étudiants, deuxième, troisième année, ils apportent vraiment un appui à nos agents, surtout dans le cadre de traitement des patients. Parce que un agent qui est censé prendre 10 à 20 patients par jour, à lui seul, vraiment, c'est une grande tâche. Donc, ces étudiants de deuxième, troisième année, déjà, eux, ils sont presque des agents, si on peut l'appeler ainsi, parce qu'ils ont vu toutes les pathologies et les traitements des patients. Donc, ils peuvent l'appuyer, ils peuvent l'aider dans ce cadre de traitement. Donc, voilà, en quelque sorte, le changement principal que je peux souligner par rapport à l'arrivée des stagiaires au niveau des formations sanitaires.
Quelles sont les améliorations que vous attendez de ces écoles pour une meilleure gouvernance dans le secteur de la santé à Gaya?
Donc, ce que nous attendons des responsables de ces établissements de santé, renforcer le suivi des stagiaires. Parce que nous avons tous reçu, je parle de lui et moi, nous avons tous reçu la formation de la santé, dont nous connaissons ce que c'est. Donc le suivi, c'est de le renforcer. Il faut le suivre sur le terrain, mais ce n'est pas suffisant, c'est de le renforcer. Parce que des fois, vous allez trouver les étudiants qui ne sont pas sur le terrain de stage, vous allez les trouver, ils sont arrivés chez leurs camarades en train peut-être de les perturber un peu, de causer. Souvent, si c'est les garçons, ils viennent chez les filles causer, ainsi de suite. Donc, c'est de vraiment renforcer le suivi et que ces étudiants-là soient suivis à la lettre, pied par pied. Parce que tout à l'heure, il a souligné dans ses allocutions qu'il donne une bonne formation et que c'est le fruit. Il représente la meilleure place des étudiants de Dosso, si je peux l'appeler ainsi. Il a dit qu'ils ont la mention, la meilleure mention, ils ont eu les trois meilleures mentions de la région de Dosso. Donc je pense que c'est très bien, c'est de continuer le suivi pour que ces étudiants-là puissent encore avoir un résultat meilleur que celui de l'année passée. À part ça, il y a aussi l'évaluation des élèves sur le terrain. Et vraiment, nous voulons que l'évaluation soit régulière sur le terrain, c'est-à-dire sur le terrain des stages, et non uniquement à l'école. Il y a quelque chose qu'on appelle en sciences infirmières, qu'on appelle technique de soins. Technique de soins est censée être évaluée sur le terrain. Donc vraiment, nous voulons que ces responsables de ces écoles-là viennent au niveau de la formation, des formations sanitaires, des différentes formations, pour superviser, pour évaluer les étudiants sur le terrain.
Ousmane Darani, directeur d'études d'un centre de formation. Vous venez d'écouter le communicateur du district sanitaire de Gaya. Alors désormais, qu'attendez-vous du district sanitaire de Gaya pour une meilleure gestion des moyens?
Ce que nous attendons de district, c'est de continuer dans ce sens tout simplement parce que, en tout cas, qu'est-ce qui fait que nous sommes une meilleure école de la région de Dosso? Donc, je dis tout à l'heure que vraiment, c'est la pratique. Et cette pratique-là, c'est en collaboration et c'est avec l'aide conséquente donc, de ce district et des différents CSI qui sont dans la ville de Gaya et dans les environs. En tout cas, nous remercions vraiment assez suffisamment, s'il faut le dire, donc l'équipe de district et leurs collaborateurs de la formation qu'ils apportent donc au centre de formation sanitaire. Et en plus, la collaboration, parce que à chaque fois qu'il y a un problème, ils nous appellent et nous répondons toujours présents pour qu'on puisse en tout cas continuer cette collaboration et pour que donc à la fin, ce n'est pas un résultat pour nous ou bien pour eux. Tous nous œuvrons pour le bien du malade.
Mademoiselle Balkissa Balarabé, je viens vers vous. Quelles sont désormais vos attentes envers le district sanitaire de Gaya?
Mes attentes, c'est au niveau de l'accueil et le respect. Vraiment, il faut bien accueillir les gens. Qu'ils soient pauvres ou riches, il faut bien les accueillir. Il faut bien les respecter.
Et envers les centres de formation en santé?
Et envers les centres de formation en santé, c'est de mettre quelques règlements au niveau du respect et comment accueillir s'il peut mettre des modules, même comment accueillir un malade et comment le respecter.
Un dernier tour de table avant de clôturer cette émission. Quelles sont les perspectives ou les recommandations utiles pour une bonne gouvernance dans le secteur de la santé, Monsieur Ousmane Magaji?
Pour une bonne gouvernance dans le domaine de la santé, surtout ici à Gaya, et donc déjà le district sanitaire de Gaya a mis en place, ou bien il est sous un nouveau système qu'on appelle le système de financement basé sur les résultats, qui maintenant ce n'est plus l'ancien système que le district connaissait, c'est-à-dire maintenant c'est on met l'accent du moins, excusez-moi, sur la qualité des soins. C'est sur la qualité des soins que nous mettons l'accent. Donc le district sanitaire de Gaya est actuellement c'est une vitrine des districts presque du Niger. Parce que je dis qu'il était sous financement basé sur les résultats et il l'est actuellement aussi. Donc peut-être je peux un peu dire c'est quoi le financement basé sur les résultats. Donc le financement basé sur les résultats, c'est passer de financement input, c'est-à-dire l'ancien financement, le financement où on te dit d'aller faire l'activité, on donne l'argent pour d'aller faire l'activité, après tu amènes les justifs, à un financement moderne. Le financement moderne, c'est que tu vas faire l'activité, on vérifie l'activité et on te paye. C'est ça l'achat des soins. Donc le district sanitaire de Gaya actuellement est sur cette marche. Rien que la semaine passée, nous avons renforcé l'accueil au niveau des agents de santé pour que vraiment ces patients-là qui plaignent de l'accueil, aujourd'hui quand ils vont venir, ils vont constater un changement et qu'ils seront satisfaits avant même de recevoir leur traitement.
Vous, Monsieur Ousmane Danrani, quelles sont vos perspectives ou les recommandations utiles pour une bonne gouvernance dans le secteur de la santé?
Ce que nous recommandons, en tout cas, c'est à ces organisations non gouvernementales, à ces partenaires-là qui se soucient de la bonne gouvernance dans le secteur de la santé, de venir appuyer les centres de santé qui sont privés.
Vous avez dit tout à l'heure au cours de l'émission que les patients ont le droit d'être pris en charge convenablement. Les agents de santé aussi ont le droit de les accueillir convenablement. Merci à vous tous d'avoir été des nôtres. Merci à vous, Monsieur Magaji Ousmane, communicateur du district sanitaire de Gaya. Merci à vous aussi, Ousmane Danrani, directeur des études d'un centre de formation en santé à Gaya. Et à vous aussi, mademoiselle Balkissa Balarabé, citoyenne de la ville de Gaya. Merci et au revoir.